franceinter.fr.
Sur Inter, et c'est vous le journal. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le CSA, plus sur la même longueur d'onde que Mathieu Gallet, le gendarme de l'audiovisuel, démet le PDG qu'il a nommé, condamné pour favoritisme à l'INA, et poussé vers la sortie par l'État. Il sera remplacé le 1er mars. Pression politique plus forte que la présomption d'innocence pour ses avocats. L'exemplarité, condition absolue pour les patrons de services publics, répond Françoise Nyssen. Les cheminots marocains remportent la bataille judiciaire contre la SNCF. Discriminés, ils seront indemnisés. Au sommaire également ce soir, Tariq Ramadan en garde à vue après deux plaintes pour viol. L'industrie allemande en grève depuis ce matin et peut-être encore demain. Les archives du père Castor à l'UNESCO. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, Sébastien, on s'entasse dans 30 mètres carrés à 4 à 5 à plus. La suroccupation touche 9 millions de personnes, c'est ce que dit la fondation Abbé Pierre. HLM bloqué, parc immobilier inadapté. Venez pour nous en parler. Est-ce que les appels en baissent, la fin de l'encadrement des loyers, tout ça, est-ce que ça accentuera ces phénomènes? 01 45 24 7000.
Une décision de justice et la pression politique ont donc eu raison de Mathieu Gallet. Le CSA révoque le PDG de Radio France, une première dans l'histoire de l'audiovisuel public. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Le gouvernement réclamait son départ depuis sa condamnation à un an de prison avec sursis quand il dirigeait l'INA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a donc entendu.
Ma responsabilité, c'est l'indépendance du CSA, nous disait la semaine dernière Olivier Schramek, le président de l'instance. Le fait est que la décision va bien dans le sens de ce qu'attendait le gouvernement. On attend le détail de cette décision qui doit être fondée sur des critères précis de compétences et d'expérience. En substance, le CSA dit que Mathieu Gallet n'est plus en mesure de diriger sereinement Radio France. L'intéressé accuse le coup. Moment très difficile pour Mathieu Gallet, confie son avocat. Pour Christophe Ingrin, la pression de l'État a été plus forte que la présomption d'innocence.
Quand le ministre de la Justice dit que Mathieu Gallet doit se poser la question de sa démission, quand le ministre de la Culture dit que sa situation n'est pas acceptable, il y a une pression extrêmement forte. C'est inquiétant de voir comme ça que l'État promeut le principe d'exemplarité. C'est un peu le règne de l'arbitraire. C'est une atteinte au droit qui est un mauvais signe pour chacun d'entre nous.
Ce soir, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, répète que l'exemplarité des dirigeants est une condition absolue dans le service public. Mathieu Gallet, lui, n'a pas encore fait savoir s'il contestera la décision du CSA devant le Conseil d'État.
Qui va diriger les 4500 salariés de Radio France à partir du 1er mars?
Ce sera le doyen d'âge des administrateurs de l'entreprise nommé par le CSA. En l'occurrence, Jean-Luc Vergne, 69 ans, pas vraiment une figure de l'audiovisuel, plutôt du monde de l'entreprise. Il a été DRH de PSA Peugeot Citroën, notamment avant de bifurquer vers la banque, puis de présider un réseau de création et d'accompagnement d'entreprises. Décrit comme un personnage haut en couleur par les syndicats qui l'ont côtoyé, Jean-Luc Vergne a soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau PDG par le CSA, sauf que la réforme annoncée de l'audiovisuel public devrait tout chambouler. Elle prévoit justement que les dirigeants soient nommés non par le CSA, mais par le conseil d'administration des entreprises.
Alors on a entendu l'argument des avocats de Mathieu Gallet. Merci Sébastien Sabiron. La pression de l'État plus forte que la présomption d'innocence. Avis pas franchement partagé dans les couloirs de l'Assemblée. Laurence Perron.
Au départ, le député, même dit d'opposition, est prudent.
Bon, ben voilà, ok.
La nécessaire indépendance des médias oblige Olivier Faure, le patron des députés socialistes, à un commentaire très élémentaire.
J'ai bien saisi qu'il y avait eu un jugement, que M. Gallet a été condamné, qu'il fait appel, et qu'aujourd'hui le CSA considère que l'exemplarité doit être totale pour une maison publique.
Même son de cloche du côté des Insoumis qui s'inquiètent toutefois de l'autonomie réelle du CSA. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis.
Cette démission ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est le fait que le ministre ait parlé avant. Parce que ça peut aussi ressembler à une reprise en main du secteur public de l'audiovisuel, surtout après les déclarations d'Emmanuel Macron très dures avec ce secteur.
À droite, le député LR d'Eure-et-Loire, Olivier Marleix, s'autorise toutefois ce trait d'esprit.
À un moment, on a supposé qu'il aurait pu bénéficier de protection en haut lieu. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça n'a pas joué en sa faveur.
À quelques mètres, on voit s'enfuir le chef des députés de la République en marche. Dans un souffle, Richard Ferrand lâche no comment. Le CSA est indépendant avant de laisser le micro à Bruno Studer, marcheur lui aussi, est président de la commission des affaires culturelles.
Moi, je fais entièrement confiance à Olivier Schramek et à ses équipes pour avoir pris en toute souveraineté leur décision. Il semblait difficile, je l'avais déjà dit, que Mathieu Gallet se maintienne ou soit maintenu. Au moment où je vous parle, je ne vais pas faire d'autres commentaires que celui-ci.
Sur ce sujet, une fois n'est pas coutume, c'est un consensus politique quasi parfait. À l'Assemblée nationale, Laurence Perron, France Inter.
Et le prochain rendez-vous pour la Maison Ronde et pour l'ensemble de l'audiovisuel public, d'ailleurs, cet après-demain, les patrons remettent leurs propositions à Françoise Nyssen avant le projet de loi de réforme du secteur qu'Emmanuel Macron souhaite d'ici la fin de l'année.
Les cheminots marocains ont finalement obtenu gain de cause.
Certains avaient engagé le combat judiciaire il y a 13 ans. Ces 848 travailleurs marocains, pour la plupart embauchés dans les années 70 par la SNCF, mais sans le statut avantageux réservé aux cheminots européens, ils poursuivaient la compagnie ferroviaire pour discrimination. Condamnation confirmée, Maxime Debs, plus le préjudice moral.
Ambiance de liesse tout à l'heure dans les couloirs du palais de justice, proportionnelle aux 13 longues années de procédures qui viennent de s'écouler, alors que coulent les larmes sur le visage d'un vieil homme, des larmes de joie, forcément.
C'est bien, on a gagné.
La décision prise cet après-midi par le tribunal va donner droit à des dommages et intérêts, mais pour la plupart, comme Driss Assadi, l'un des plaignants, ce n'est pas le chèque le plus important.
C'est pas la question de l'argent. L'argent, c'est rien, ça passe. L'argent, c'est la même, c'est pas le cœur. Mais c'est la dignité des anciens Marocains qui ont travaillé.
Des Marocains embauchés dans les années 70-80 sous le statut moins avantageux que celui des cheminots. Comme le rappelle Ahmed Mikali, certains ont dû travailler jusqu'à 65 ans quand les autres ont pu partir à 55, le tout sans raison.
Pourquoi on était considéré une personne de deuxième catégorie? Mais de quel droit?
Le droit, ou plutôt la justice, une femme se félicite ce soir qu'elle ait été rendue. Clélie de Lesken Jonas, l'avocate des Chibani, émue aux larmes tout à l'heure au moment de rendre publique la nouvelle.
La SNCF n'a eu de cesse d'user de manœuvres dilatoires pour retarder l'issue du procès. Elle a passé 40 ans à faire des économies sur le dos des cheminots marocains. Mais nous sommes arrivés à bout et c'est une grande, grande joie aujourd'hui, un grand bonheur.
Ce soir, la SNCF prend acte, dit-elle, de la décision du tribunal. Dans les faits, elle peut toujours se pourvoir en cassation.
Les Chibani, qui veut dire cheveux blancs en arabe, demandaient 628 millions d'euros de préjudice au total. Ils ont obtenu 170 millions de dommages et intérêts en première instance. On attend de savoir quel sera le montant en appel. Lui est en garde à vue depuis ce matin, l'islamologue controversé Tariq Ramadan. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Deux femmes l'accusent de viol en 2009 et en 2012.
Oui, Tariq Ramadan est actuellement entendu par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête ouverte en octobre dernier par le parquet de Paris pour viol et violence volontaire. Deux femmes, vous l'avez dit, ont porté plainte contre l'islamologue suisse, âgé de 55 ans, conférencier brillant et controversé. La première, Enda Ayari, l'accuse de l'avoir agressée en marge d'un congrès de l'Union des organisations islamiques de France. C'était en 2012 dans un hôtel parisien. Une scène très violente que cette ancienne salafiste, aujourd'hui militante féministe et laïque, avait racontée dans un livre en 2016, mais sans donner de nom. Elle a finalement décidé de porter plainte en octobre dans le sillage de l'affaire Weinstein. Quelques jours après, une seconde plainte a été déposée contre Tariq Ramadan. La plaignante est anonyme. Elle relate une scène similaire de viol dans un hôtel de Lyon en 2009. Les deux femmes ont déjà été entendues par la police. Tariq Ramadan, lui, dément catégoriquement ces accusations. Ses avocats ont d'ailleurs déposé plainte contre Enda Ayari pour dénonciation calomnieuse. La garde à vue de Tariq Ramadan, qui peut durer en théorie 48 heures, permettra peut-être d'y voir plus clair.
Et l'université britannique d'Oxford l'a mise en congé il y a 3 mois de son poste de professeur d'études islamiques.
Il est 19h09 sur France Inter. Ils sont en quelque sorte les victimes collatérales de Jawad Ben Daoud.
Oui, si l'on osait, on dirait qu'ils ont été délogés par le logeur des djihadistes du 13 novembre, dont le procès pour recel de malfaiteurs terroristes se poursuit à Paris. Tout s'est terminé sous les balles du raid et les explosifs des terroristes dans l'immeuble de Saint-Denis, inhabitable depuis plus de 2 ans, Charlotte Piret, et dont les occupants avaient donc la parole aujourd'hui.
Ce sont les laissés pour compte des attentats qui s'avancent à la barre aujourd'hui. Il y a cet homme, veste beige et mouchoir à la main. Avec sa femme, leurs 3 enfants, il loue depuis 14 ans un appartement de la rue du Corbillon quand ce 18 novembre, les forces de l'ordre débarquent pour viser le 2 pièces d'en face où sont logés les terroristes. J'ai perdu mes dents parce qu'ils ont cru que moi aussi, explique l'homme à la barre. C'est quand ils ont vu ma famille qu'ils ont compris. Alors la famille part se terrer dans la chambre. La mère se couche sur ses enfants tandis que les balles sifflent. Cela dure 8 heures. Une éternité dont ils ne se remettent pas. La mère a pris la parole à son tout raconte entre deux sanglots comment ses enfants refont pipi au lit, comment au moindre bruit on se couche par terre, comment sa fille de 3 ans à l'époque passe son temps dans sa chambre. Elle creuse les murs pour faire une fenêtre. J'ai acheté un grand sac de plâtre, à chaque fois on rebouche. Le couple ne travaille plus, touche le RSA, pas plus, car ils ne sont pas reconnus comme des victimes du terrorisme. Même chose pour Sharif qui s'est vu mourir ce jour-là. Un policier a tiré en l'air, j'ai pris un éclat dans l'épaule, explique le trentenaire. Après son opération, 10 jours passés à l'hôpital, il est relogé à l'hôtel. Il y est toujours.
Charlotte Piret.
Dans son domaine, c'est un peu le salon de Las Vegas.
Hein. Le FinTech Forum, rendez-vous qui vient de s'achever à Paris de toutes les jeunes pousses de la finance, de l'assurance et du bancaire. Des jeunes pousses qui viennent bousculer les gros du secteur. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir.
Et en particulier les banques.
Revolut, N26, Fidor, est-ce que tous ces noms vous disent quelque chose?
Rien du tout.
Ce sont des néobanques et ce sont elles qui bousculent le secteur en promettant compte gratuit, application sur le téléphone mobile et même désormais du crédit. C'est le cas de N26 qui est une banque allemande. Et sans publicité, elle a dépassé les 200 000 clients en un an dans l'Hexagone. Son directeur général en France, Jérémy Rosselli.
On concurrence vraiment les banques traditionnelles car on est capable de proposer des services traditionnels mais de façon entièrement digitale. En France, on a lancé le crédit à la consommation au mois de décembre en partenariat avec United Credit. Vous pouvez souscrire très simplement depuis votre téléphone mobile à un crédit de 1 000 à 40 000 euros. Aujourd'hui, oui, on fait peur aux banques traditionnelles et on a vocation à continuer dans cette direction-là.
Alors, la plupart des clients utilisent ces néobanques pour un compte secondaire en plus d'un compte dans une banque traditionnelle, hein, faut le dire. Les fintechs, en tout cas, innovent. La petite dernière s'appelle Ditto. Elle va se lancer le 15 février en France. En gros, vous ouvrez un compte en euros et sur la même appli, vous pouvez y associer un compte en dollars, en yens, en couronne. C'est pratique pour les grands voyageurs, les étudiants Erasmus et les expatriés, comme son fondateur Sylvain Pignet.
J'ai été confronté au fait que j'avais besoin d'avoir une vie financière en France, une vie financière en Angleterre. Et en plus de ça, je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup pour mon travail. Et donc, j'étais constamment en train de chercher le meilleur moyen d'acheter des devises, de les envoyer d'un pays à l'autre. Et moi, j'ai eu l'idée de créer une plateforme où tous les services liés au change peuvent être rendus au même endroit de façon intuitive.
La FinTech applique une marge de change maximale de 1% sur le taux moyen du marché. C'est une initiative de plus qui va transformer le secteur bancaire certainement.
Merci pour ces découvertes. Hélène Philly, la quatrième ville de France bloquée par des tracteurs. Les agriculteurs d'Occitanie protestent à Toulouse contre la nouvelle carte européenne des zones agricoles défavorisées. Carte des zones à handicap naturel dont 40% pourrait disparaître dans le seul département de la Haute-Garonne. Soit une perte sèche de 6 à 12 000 euros selon les exploitations. 10 000 euros pour le père de Thibaut Audibert, jeune exploitant qui attend de reprendre l'exploitation familiale près de Cadour. Il est au micro de Stéphanie Glésis.
Cette nouvelle carte, ils veulent nous sortir de la zone défavorisée. Donc c'est-à-dire qu'on va perdre une somme importante d'aide, 10 000 euros, quoi, on va dire. Parce que déjà que nous n'arrivons pas à sortir un bénéfice de notre activité, ces 10 000 euros nous permettent de remplir nos frais, quoi, de compenser, clairement. Ça va être compliqué de continuer comme ça, quoi. Donc j'ai été obligé de poursuivre mes études par manque d'opportunités, quoi. Et on va dire que je m'installerai dès que j'en aurai l'opportunité. Mais bon, avec la conjoncture actuelle, je pense que ça va être pas peut-être dans l'immédiat, quoi. Moi, étant passionné par le monde agricole depuis mon plus jeune âge, depuis que je sais marcher, je vais aux bêtes, soigner les bêtes, donc ça m'embête clairement de ne pas pouvoir reprendre l'exploitation quand je veux, quoi. Moi, j'ai quand même la volonté de vouloir continuer l'élevage parce que bon, même si ça va mal, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'au bout d'un moment, ça va péter et ça va mal finir. Non, je continuerai l'activité, mais bon, je serai obligé d'aller travailler dans une entreprise extérieure.
Eux sont en grève depuis ce matin, les quelques 4 millions de salariés de l'industrie allemande, grève à l'appel d'IG Metall. Le syndicat réclame des hausses de salaire, Cyril Sauvageau, avec la bonne santé de l'économie outre-Rhin et la semaine de 28 heures.
Dans la filière automobile, l'électronique, les machines-outils, des secteurs clés de l'industrie allemande, la production a tourné au ralenti aujourd'hui dans toute l'Allemagne, conséquence d'une très forte mobilisation. Une première grève de 24 heures qui devrait être renouvelée demain et après-demain pour accroître la pression sur le patronat. Après l'échec du dernier round des négociations, IG Metall, le syndicat de la métallurgie, campe sur ses revendications. Il demande toujours 6% de hausse de salaire. Le patronat n'est prêt à en concéder que la moitié et un aménagement partiel du temps de travail. Les salariés auraient la possibilité, pendant une période de 2 ans, de réduire leur durée hebdomadaire à 28 heures. Mais les employeurs refusent catégoriquement de prendre en charge la compensation financière pour ces heures de travail non effectuées. Aucun compromis en vue pour l'instant, mais les négociations pourraient reprendre samedi. S'il n'y a pas d'avancée, IG Metall est prêt à poursuivre le bras de fer avec un mouvement de grève illimité. Cette fois-ci, ce serait une une première depuis 2003. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Direction Moscou maintenant, où Vladimir Poutine prend en fait et cause pour ses sportifs à moins de 10 jours du début des Jeux de Pyeongchang. Claude Brouillot, le chef du Kremlin, s'excuse de ne pas avoir su les protéger du dopage et il leur promet des Jeux de substitution.
C'est un Vladimir Poutine, comme on l'entend rarement, un peu en retrait, qui s'est exprimé quasiment excusé aujourd'hui en promettant de soutenir les sportifs russes qui ne partiront pas aux JO d'hiver. Ils seront des dizaines à rester au pays alors qu'ils s'entraînaient pour certains depuis des années. Mais leur non-sélection s'inscrit dans le prolongement des sanctions olympiques contre la Russie, accusée de dopage institutionnalisé il y a 4 ans aux JO de Sochi. Et le président russe, ancien champion de judo, a essayé de trouver les mots. Nous savons très bien, et vous le savez mieux que quiconque, combien il est difficile de remporter la victoire dans les sports de haut niveau et ce que ça coûte. Pardonnez-nous de ne pas avoir été en mesure de vous protéger de tout cela. Vladimir Poutine avait auparavant qualifié d'étranges les sanctions du CIO, évoquant un mélange entre lutte contre le dopage et des événements politiques auxquels, a-t-il dit, le sport doit être étranger, faisant sans doute allusion à cet instant indirectement aux relations très difficiles entre la Russie et les États-Unis notamment. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Olivier Giroud change de club anglais. L'international français quitte Arsenal pour Chelsea.
Une nouvelle récompense au César.
Une statuette pour le film qui a fait le plus d'entrées. Ce sera sans doute une comédie à succès comme Le Sens de la Fête, qui d'ailleurs fait partie des favoris de la cérémonie. 10 nominations juste derrière. 120 battements par minute de Robin Campillo et Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. 13 nominations chacun. Côté actrice, Jeanne Balibar, Juliette Binoche et Emmanuel DeVos sont en lice. Daniel Auteuil, Jean-Pierre Bacri ou Reda Kateb chez les hommes. Cérémonie le 2 mars. Pas de date en revanche pour le bouquet de fleurs de Jeff Koons, la sculpture monumentale que l'artiste américain offre à Paris et veut installer entre le Palais de Tokyo et le Musée d'Art Moderne. Anne Hidalgo a dit oui, mais les tulipes colorées sont loin de faire l'unanimité. En tout cas, le lieu prévu pour leur installation. Après Frédéric Mitterrand, un autre ancien ministre de la Culture s'y oppose, Jean-Jacques Ayagon, qui avait pourtant exposé les œuvres de Koons au château de Versailles quand il le dirigeait. Il s'explique à Isabelle Pasquier.
Cette œuvre, je la trouve trop encombrante par rapport à la masse du palais de Tokyo. Je trouve également qu'elle contredit l'architecture dans la mesure où la colonnade qui relie les deux ailes du palais de Tokyo a été faite pour la transparence et que cette œuvre recouvrirait une partie de cette transparence. D'autre part, j'observe également que le palais de Tokyo est occupé par deux institutions majeures, le musée d'art moderne de la ville de Paris d'un côté, le palais de Tokyo de l'autre, que ces deux institutions peuvent être amenées à programmer des manifestations à l'extérieur de leurs murs, sur leur parvis, et qu'il faut donc que leurs environs restent neutres de toute implantation permanente. Et donc il vaudrait mieux qu'on réfléchisse sérieusement au choix d'un autre site pour l'installation de ce bouquet de tulipes de Jeff Koons. L'essentiel pour une œuvre commémorative, c'est que le site soit digne, qu'il soit empreint de sérénité. On ne peut pas imaginer qu'une œuvre qui est censée commémorer la douleur qui a été infligée à la France devienne un objet de polémique et de rejet par une partie de l'opinion.
On termine avec l'entrée des archives du Père Castor à l'UNESCO. Ses livres jeunesse avec la poule rousse, le cheval bleu. Tous ces héros vont se retrouver aux côtés de la déclaration originale des droits de l'homme et du citoyen ou de l'appel du 18 juin de Gaulle dans le registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Reconnaissance exceptionnelle pour des archives qui couvrent les années 30 à la fin des années 60 et que Nathalie Cole a pu approcher là où tout a commencé. C'est à Meusac en Haute-Vienne.
Dans une pièce sans fenêtre, aux allures de bunker, des milliers de documents s'entassent dans des boîtes sur des étagères. Elle enferme un véritable trésor, explique Emiliane Dufour, directrice de la médiathèque.
Les dessins d'illustration, des originaux, des albums du Père Castor, les boîtes de correspondance, les dossiers de fabrication, les catalogues, les albums, première édition. On va retrouver les courriers des enfants qui écrivent au Père Castor, des archives documentaires sur les articles de presse qui sont parus à l'époque des sorties des albums.
Ces archives retracent de A à Z la conception d'albums devenus de grands classiques de la littérature jeunesse. C'est un fonds rarissime sur une telle durée, inestimable sur le plan financier, mais aussi sur le plan sentimental pour Anne-Catherine Fauché, petite fille du fondateur du Père Castor.
Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai été vraiment élevée au Père Castor.
Et c'est une reconnaissance énorme, c'est assez incroyable.
Devenue éditrice, elle aussi, Anne-Catherine Fauché s'est beaucoup impliquée dans cette reconnaissance qui récompense également, selon elle, le travail avec des artistes du monde entier et la pédagogie développée dans ses livres, très moderne pour l'époque. La médiathèque de Meusac s'attend maintenant à attirer des chercheurs du monde entier pour étudier ses archives, distinguées au même titre que d'autres documents fondateurs de l'histoire de France.
Oui, le Père Castor sera aussi à côté des films originaux des Frères Lumière. Reportage signé Nathalie Cole de France Bleu Limousin.
Merci beaucoup Sébastien Parot. On se retrouve demain, bien sûr. Merci de nous écouter. Ne changez rien, le téléphone sonne, c'est à suivre.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Sébastien Léas, beaucoup d'averses pour demain au programme.
Oui, en début de matinée, les régions allant des Pyrénées au centre-est seront encore concernées par la perturbation pluvieuse qui s'étend actuellement du Grand Est au Poitou-Charentes. Mais à l'arrière de cette perturbation, c'est un ciel de traits nuageux qui va peu à peu se généraliser, avec quand même quelques belles éclaircies par moment, mais aussi des averses. Isolées sur le nord-est, les averses seront plus fréquentes entre Bretagne et Pas-de-Calais sur le nord-Aquitaine demain matin. Et puis c'est le sud de la Garonne qui sera bien arrosé demain après-midi. Des giboulées orageuses seront localement possibles, avec de la neige à basse altitude, voire quelques flocons mouillés vers les Ardennes ou le Morvan. Sur les Alpes et les Pyrénées, on attend entre 10 et 25 cm de neige fraîche vers 1500 mètres d'altitude. Les régions méditerranéennes seront un peu en marge, mais les nuages seront prédominants, apportant quelques ondées sur l'ouest de la Corse et la Provence.
Et sinon, des températures en cours de saison?
Oui, après la douceur remarquable de ce mois de janvier, les minimales et maximales retrouveront des valeurs plus conformes à un début février. Demain après-midi, prévoyez 5 degrés à Nancy, 6 degrés à Nevers et Dijon, 8 degrés au Mans, à Caen et à Lyon ou encore à Agen. Il fera 10 degrés à Bayonne, 11 degrés à Perpignan et Toulon et 13 degrés à Bastia. Et puis on rappelle cette vigilance orange aux inondations sur 11 départements pour les crues, notamment de la Seine et de la Marne.
Sébastien Léas, merci beaucoup.